Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Un an après leur échec, les militantes et les militants argentins du droit à l'avortement repartent à l'assaut du Parlement pour tenter de faire légaliser le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Cette nouvelle tentative a lieu alors que l'IVG est à nouveau en question un peu partout dans le monde, que ce soit pour la défendre comme en Argentine et ailleurs, mais aussi et peut-être surtout pour s'y opposer comme on l'a vu ces derniers temps dans les États du sud des États-Unis, mais aussi peut-être dans certains pays d'Europe. La question de l'avortement et du droit des femmes à disposer de leur corps semble être un combat sans fin. L'IVG est-elle menacée partout? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Daniel Assoun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue, ancienne responsable du centre d'IVG de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, dans la banlieue parisienne, experte auprès d'ONG internationales pour former et promouvoir des nouvelles technologies dans les domaines de la santé reproductive et, parmi ces nouvelles techniques, l'avortement médicamenteux. Et Raphaël Rémy-Leleu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de l'association Oser le féminisme. Comme je le disais, le combat pour le droit à l'avortement n'est jamais terminé, et même lorsqu'il est inscrit dans la loi depuis plus de 40 ans, comme c'est le cas en France, il est parfois contesté. Diriez-vous, Daniel Assoun, que les attaques contre le droit à l'avortement sont plus nombreuses qu'elles ne l'étaient ces derniers temps ?
On peut pas dire ça vraiment. Disons que la situation est paradoxale dans la mesure où, par exemple, depuis les années 2000, 21 pays ont élargi l'avortement, ont autorisé l'avortement. Alors, dans des conditions plus ou moins bonnes, c'est pas toujours les meilleures conditions. Mais en tout cas, il y a un mouvement comme ça. Et puis, paradoxalement, effectivement, on voit pour les États-Unis et les États du Sud, comme vous l'avez dit, une restriction absolument terrible et épouvantable pour les femmes qui vont devoir faire des voyages à travers les États, voire ne pas pouvoir avoir leur avortement. Et on voit aussi, alors si on retourne sur l'Europe, qu'il y a quand même un certain nombre de pays à l'est de l'Europe. Il y a eu la Pologne depuis les années 90 qui ont interdit l'avortement de façon absolument drastique, obligeant les femmes polonaises non pas à ne pas avorter, parce que les femmes, quand elles décident d'avorter, quelles que soient les conditions, elles avortent. Donc ça oblige les femmes polonaises à aller dans les pays limitrophes pour avorter. Et il y a d'autres pays autour, comme la Croatie, la Hongrie, où clairement il y a un danger pour les femmes là.
Raphaël Rémy-Leleu, vous sentez une remise en cause dans les discours, dans ce qu'on entend, dans l'air du temps?
C'est toujours extrêmement compliqué à mesurer, puisqu'en effet, à chaque fois que les femmes arrachent des victoires dans ces domaines, on constate, quelques années plus tard, ce qu'on appelle le backlash, où les Québécoises parlent de ressac, c'est-à-dire une forme de retour en arrière des conservatismes et des réactionnaires qui se battent contre nos droits et contre notre liberté. Et ça, on l'a vu également sur des pays considérés comme autant moderne et progressiste que l'Espagne en 2014. C'était une mobilisation très importante pour essayer de conserver le droit à l'IVG sous un gouvernement de droite en Espagne. Oser le féminisme avait participé à la mobilisation et aux manifestations espagnoles. Et c'est là qu'on voit finalement à quel point les droits des femmes ne sont pas une pensée cardinale dans nos politiques publiques. Dès qu'un changement, ne serait-ce que très léger, de politique conservatrice a lieu au pouvoir, les droits des femmes sont les premiers à être attaqués.
Ça veut dire que les partisans du pro-vie, disons, se sentent peut-être un petit peu autorisés à ressortir du bois. C'est quel type d'attaque, Daniel Assoun? C'est d'abord un militantisme politique, religieux aux États-Unis, la vague évangélique?
Très clairement, aux États-Unis, il y a ce poids d'une certaine forme de religion, pas toutes les religions, mais en tout cas tous les mouvements évangéliques effectivement sont partie prenante dans cette lutte anti-avortement et de façon extrêmement violente, parce que les lois qui sont actuellement dans ces États du Sud justement sont d'une cruauté incroyable. On a d'abord autorisé les avortements à condition que les femmes regardent les battements cardiaques à l'échographie. C'est d'une cruauté épouvantable, ça. C'est quand même à la limite du sadisme, voire de la perversion. Donc il y a plusieurs types d'attaques, effectivement. Ce qu'il faut dire aussi pour l'avortement, c'est que il y a les lois, et puis il y a l'application des lois. C'est-à-dire qu'il arrive quelquefois que les lois sont relativement libérales, mais qu'on a du mal à les appliquer. Il faut voir par exemple l'Italie, c'est pas très loin de chez nous, où il y a une clause de conscience qui est pour les médecins, 70% des gynécologues arguent de la clause de conscience pour ne pas faire des avortements. Et ceci rend les avortements difficiles d'accès pour les femmes.
Oui, oui, Raphaël Rémy-Leleu, on tente de rendre l'IVG difficile hein, avec des attaques réglementaires. On tend à le rendre, à rendre l'IVG carrément impossible.
Alors, il y a des attaques réglementaires, légales, des batailles politiques. C'est typiquement ce qu'on voit aux États-Unis, où l'on sait que les États comme l'Alabama, qui ont légiféré dernièrement sur l'avortement, le font aussi pour aller face à la Cour suprême américaine et essayer de faire reculer les droits au niveau fédéral. Et puis, en effet, comme vous le disiez, il y a le problème de l'application des lois, finalement. La culture de nos sociétés n'a pas encore accepté que les femmes sont libres de leur corps, sont libres d'elles-mêmes. Et en France également, on a cette problématique de la clause de conscience spécifique sur l'IVG. Quelle est la légitimité d'une clause de conscience spécifique? La clause de conscience existe déjà, elle devrait suffire.
Pour l'ensemble de la médecine, c'est ce que vous voulez dire.
Il y a deux clauses de conscience en réalité dans le droit français. Mmh. Il y a une clause de conscience générale pour les médecins que nous ne remettons bien sûr pas en cause. Mais il y a également une clause de conscience spécifique pour l'avortement qui en fait un acte à part. Et ça pose la question de la philosophie de notre droit, de la philosophie des droits des femmes, finalement. Et c'est quelque chose d'extrêmement compliqué d'expliquer aussi aux femmes qu'elles sont légitimes à décider pour elles-mêmes quand tout dans la société, de la manière dont est traité l'IVG, dans les témoignages que nous avons recueillis dans le cadre de notre campagne À Notre Santé, on a des centaines de femmes qui témoignent de médecins qui leur montrent une échographie alors que ça n'est pas un acte désiré, leur font entendre des battements cardiaque, qui mettent en culpabilité des femmes qui souhaitent avorter.
Ça, c'est le cas également en France, Daniel Assoun, ça arrive de plus en plus?
Alors, je ne dirais pas de plus en plus. C'est très difficile à apprécier, en fait. On a plutôt l'impression que parmi les plus jeunes des médecins, en particulier des jeunes gynécologues obstétriciens, on n'est plutôt pas automatiquement défavorable à l'IVG, mais il y a effectivement des mouvements ainsi sur... De façon plus globale, je dirais, pourquoi est-ce que l'avortement n'est-il pas un acte médical comme un autre? Or, ce n'est pas un acte médical comme un autre. Au fond, pourquoi avons-nous légiféré sur l'avortement? On ne légifère pas sur l'appendicite ou sur n'importe quel autre acte médical. Donc c'est plutôt là, ça peut paraître paradoxal et certains n'entendront pas ce type de raisonnement. Mais moi je me dis, je vois pas très bien pourquoi il y a une loi sur l'avortement. C'est un acte médical comme un autre, les femmes elles ont le droit de décider ce qu'elles veulent. Quand elles veulent, c'est leur corps, donc je ne vois pas pourquoi les législateurs se mêlent de ça.
C'est une question de liberté individuelle. Est-ce qu'il y a des attaques financières aussi, Raphaël Rémy-Leleu? L'IVG n'est évidemment pas remboursé partout.
Alors, il y a bien sûr des questions au niveau personnel de remboursement, même si la couverture santé en France... Mais ensuite, en effet, de par le monde, on a encore beaucoup trop de femmes, plus de 500 000 chaque année, qui meurent des suites d'un avortement clandestin, y compris parce que des voyages dans des pays transfrontaliers pourraient bénéficier d'un avortement, y compris parce que absence de prise en charge, y compris parce que absence de structure de soins adaptées. Et puisqu'on voit aussi du point de vue financier qui relève de véritables attaques, c'est une guerre de désinformation contre les femmes. Et ça, on l'a vu très clairement en France. Quand vous tapez IVG, modalité pour avorter, vous avez encore aujourd'hui dans les premiers résultats des faux sites d'information qui sont en réalité des sites qui... incite les femmes à ne pas avorter, les mettent en culpabilité, les mettent en honte, parce qu'il y a des puissances d'argent extrêmement fortes qui soutiennent des mouvements réactionnaires contre les droits des femmes.
Daniel Assoun, il y a des États américains qui, en réaction à ce qui se passe en Alabama, en Géorgie, veulent renforcer la protection du droit à l'avortement. La situation de l'IVG aux États-Unis est un petit peu ambivalente quand même.
Ça l'est depuis le début, en fait. L'avortement, c'est utilisé au cours des campagnes électorales, ce qui est évidemment pas le cas dans notre pays, par exemple. C'est un enjeu électoral, mais il est clair qu'il y a autant de partisans pro-vie que de partisans qui sont pour la libération de l'avortement. Ça n'est pas du tout simple. On peut pas dire que aux États-Unis, il n'y a que des anti-avortements. Bien loin de là. Bien loin de là. Ce que je veux rajouter, c'est que il faut bien se rendre compte d'une chose. C'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les femmes, quand elles désirent avorter, quand elles ne souhaitent pas une grossesse, elles sont prêtes à n'importe quoi. Il y a 56 millions d'avortements dans le monde. La moitié sont des avortements clandestins. Alors, il y a 47 000 femmes qui meurent d'avortement. C'est totalement inadmissible. Dans nos pays, il n'y a aucune mort par avortement parce que l'avortement est accessible et est fait dans de bonnes conditions. Comment accepter que près de 50 000 femmes meurent et qu'elles ne devraient pas mourir?
Raphaël Rémy-Leleu, je vous vois réagir. C'est tout à fait étonnant d'en être encore à des chiffres pareils.
Étonnant, malheureusement, non. C'est la preuve.
Révoltant, disons.
C'est révoltant. C'est pour ça qu'on se mobilise. J'ai presque envie de dire chaque semaine pour le droit à l'avortement des femmes de par-delà le monde et y compris en France. C'est pour ça que chaque année, le 28 septembre, il y a une grande journée de mobilisation pour le droit à l'avortement. Et c'est pour ça que, on le répète, les droits des femmes ne sont jamais acquis. Ils sont en permanence conquis et on est en permanence face à ceux qui essayent de nous faire régresser.
Quelle est la situation, parce qu'on parle de l'avortement en France, effectivement, aux États-Unis, mais peut-être dans le monde entier. Quelle est la situation dans les pays du Sud, Daniel Hassoun?
Alors, c'est très clair. La majorité, par exemple, des pays d'Afrique, d'Amérique latine, du Sud de l'Asie, ont des lois qui interdisent l'avortement. Donc, des conditions d'avortement tout à fait difficiles pour les femmes, surtout quand elles sont précaires et surtout quand elles n'ont pas d'argent, car il est bien évident qu'avec de l'argent, on trouve toujours à se faire avorter plus ou moins dans de bonnes conditions. Donc, c'est une inégalité évidente. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que par rapport aux certains pays, il est clair que les pays qui ont des lois libérales sont des pays qui ont œuvré à l'égalité homme-femme. Alors, c'est évidemment, nous avons toujours l'exemple de la Scandinavie, des pays du Nord, mais c'est vrai, c'est vrai. Plus un pays a œuvré pour l'égalité homme-femme, moins il est répressif sur l'avortement.
Est-ce que dans ces pays-là, il y a une interdiction de l'avortement, mais surtout un tabou là-dessus? Est-ce que la parole commence à se libérer, Raphaël Rémy-Leleu?
C'est un peu la complexité et le paradoxe de la chose, c'est que les femmes ont toujours avorté. Si on en croit certains qui légifèrent sur les droits des femmes et notre droit à disposer de nous-mêmes, on a presque l'impression que les femmes n'ont jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Donc au-delà de l'avortement, je me demande comment l'espèce a réussi à se perpétuer. Donc le tabou, c'est finalement une tentative de mettre en silence les femmes. Mais les femmes ont toujours avorté, en ont toujours parlé entre elles, ont toujours trouver des moyens de le faire, ce qui est la prochaine étape, qui n'est pas encore acquise partout, en tout cas conquise partout, c'est que la politique, le public, fasse place aux droits des femmes comme des droits à part entière. Nous sommes la moitié de l'humanité, nous avons des droits à gagner et à défendre, et ça ne devrait pas être plongé dans l'ombre, dans l'obscurité, là où se passe en effet des choses très graves, tant du point de vue des inégalités sociales que de la mise en danger de la santé et de la vie des femmes.
Alors il y a des pays, vous le disiez Daniel Hassoun, où cette cause de l'IVG progresse. Récemment, il y a eu un référendum en Irlande, il y a eu des décisions de justice en Corée du Sud, mais c'est toujours assez compliqué. Il faut des années de bataille pour arriver à des décisions qui ne sont, vous le disiez, pas forcément toujours très bien appliquées.
Non, l'Irlande, c'est quand même, ça a été quand même l'exemple européen où vraiment les femmes se sont terriblement battues. Alors, c'est vrai qu'elles ne mouraient pas d'avortement en Irlande parce qu'elles allaient en Grande-Bretagne. Alors,
on disait voyager en Angleterre.
Elles voyageaient effectivement en Grande-Bretagne, tant mieux d'ailleurs qu'elles ne mouraient pas. Mais enfin, c'est quand même pas évident de faire un voyage comme ça. Et ce qu'on craint, c'est ce qui va se passer aux États-Unis. Probablement, elles vont se mettre à voyager d'un État à un autre. Donc, effectivement, il y a des pays qui se battent, il y a des pays pour lesquels ça commence effectivement à se libéraliser, mais après, alors je sais que par rapport à l'Irlande, par exemple, là, la loi est en train de être mise en place, il y a des gens qui se battent depuis longtemps et donc qui vont mettre en place les services d'avortement, ce qui n'est pas évident d'ailleurs, parce qu'il faut les mettre en place, il faut trouver les gens.
Mais évidemment, ça n'existait pas. Quand même.
Ça n'existait pas, donc de fait, il faut mettre en place tout ça, et puis après, il faut voir comment les lois sont appliquées, parce qu'on peut voter des lois et ne pas les appliquer. métier, n'est-ce pas? Et ça, c'est difficile de savoir ce qui va se passer.
Oui, Raphaël Rémy-Leleu, c'est ce que vous disiez en début d'émission, finalement. Hein, le principe est là, mais l'application, elle est un petit peu compliquée parce qu'il y a des réticences, des tabous, des choses comme ça.
Oui, et finalement, c'est assez dingue, si on y réfléchit quelques instants, qu'on se retrouve avec des médecins obstétriciens gynécologues qui refusent de faire des avortements. Enfin, c'est un exemple que j'ai déjà pris, c'est comme si vous deveniez cardiologue et que vous refusiez de faire des opérations à cœur ouvert. Enfin, il y a véritablement encore une distinction, une véritable discrimination finalement qui est faite sur les femmes et leur santé, qu'on retrouve aussi bien dans la loi que dans les pratiques, que dans la culture qui sous-tend tout cela. Et c'est pour ça qu'on essaye à la fois de faire des actions de plaidoyer national et international, de la prévention auprès des plus jeunes, mais aussi des manifestations coup de poing, comme lorsqu'on voit que le SYNGOF, le syndicat des gynécologues et des obstétriciens, nous met un panel entièrement masculin pour parler de la santé reproductive des femmes.
Comment est-ce qu'on peut rendre l'IVG davantage accessible, Daniel Assoun? Il y a de nouvelles techniques médicamenteuses, notamment plus simples, qui demandent peut-être de moins se déplacer, d'avoir moins d'infrastructures.
Alors, l'avortement médicamenteux, ça doit être un choix des femmes. Hein. On ne doit pas obliger les femmes à avoir un avortement médicamenteux parce que c'est plus simple. Mais c'est vrai que ça a eu en tout cas une fonction dans le monde. C'est que ça a permis une diffusion plus facile. Il n'y avait pas besoin d'un bloc opératoire, il n'y avait pas besoin d'un geste chirurgical. Donc il faut bien dire que l'avortement médicamenteux a eu cet effet et a fait baisser la mortalité maternelle, parce que même si on le fait clandestinement, eh bien, c'est moins dangereux que effectivement des manœuvres abortives dangereuses et vraiment à risque. Alors après, ce qui est dommage, c'est qu'elles aient pas le choix. Hein, le choix de la méthode, c'est vraiment aussi.
Ça fait partie de la liberté.
Ça fait partie de la liberté. Ça ne doit pas être imposé. Mais c'est vrai que maintenant, on peut avoir des avortements médicamenteux, et c'est ce qui se passe pour un certain nombre de pays où c'est interdit, par Internet, par exemple, et dans de bonnes conditions.
On préfère, alors ça dépend, c'est encore la liberté, Raphaël Rémy-Leleu, on préfère avoir affaire à des professionnels, ou parce que l'avortement médicamenteux, finalement, on a peut-être tendance à se retrouver un peu seul dans son coin.
Je pense que quand c'est bien fait, il y a quand même un suivi qui est proposé et qui peut être fait, un véritable accompagnement. En tout cas, moi, je ne préfère rien à la place des femmes, y compris parce qu'elles composent avec des situations qui sont extrêmement difficiles. Ce que j'aimerais, par contre, c'est qu'il y ait autant de recherches médicales consacrées et d'argent dans la recherche médicale consacrée à l'avortement et à la contraception qu'il n'y en a pour le Viagra, par exemple. Ouais. Ça changerait très, très concrètement la vie des femmes et des filles.
Est-ce que c'est un mouvement de retour du balancier après la vague MeToo, ce qu'on voit aux États-Unis, une remise en cause de la liberté des femmes? Est-ce qu'il y a ce que vous disiez tout à l'heure, Raphaël Rémy-Leleu, le backlash, comme disent les Américains, le ressac, disent les Québécoises? Est-ce que c'est lié, selon vous?
Ça n'est pas forcément lié directement au mouvement MeToo et à l'écoute nouvelle de la parole des femmes. Ce qui est certain, c'est qu'on a aux États-Unis un président extrêmement conservateur et que ça a tendance à libérer les chiens d'avoir des remises en cause aussi frontales, aussi directes, aussi peu critiquées des femmes, de leurs paroles, de la sacralité de leur corps, non pas dans un sens mystique, mais dans un sens d'une frontière qui n'est pas à dépasser. Et quand finalement vous avez des congressmen, quand vous avez des juges suprêmes qui expliquent qu'agresser des femmes, ça n'est pas très grave, finalement légiférer sur leur corps, on peut comprendre que c'est assez éloigné de ce qui relève pour eux d'une frontière.
Daniel Assoun, je vous repose la même question. Est-ce que on est dans un mouvement de réaction, un mouvement réactionnaire par rapport à ce qui s'est passé il y a un an, deux ans?
Non, je ne dirais pas ça non plus. Je suis d'accord que ça n'est pas ça exactement. Je pense qu'il y a effectivement des retours de bâton de temps en temps, mais en même temps aussi des avancées. Je pense que les femmes, elles sont pas prêtes à se laisser faire, et tant mieux. Il y a par ailleurs, et c'est vrai, on le constate, un retour des religions. Et les religions, c'est quand même un facteur pour les femmes, dans la majorité des cas, de répression, quand ce sont des religions qui sont autoritaires et dogmatiques. Donc il y a ça, il y a ce phénomène-là, mais en même temps, partout dans le monde, elles se battent, les femmes, pour leurs droits. Donc, je reste confiante, même si je suis inquiète.
Merci, Danielle Assoud. Merci également à vous, Raphaël Rémy Leleu, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du Débat du Jour, Déborah Lepage à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Fabrice Violet. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles, comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Participer au Débat du Jour sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.